VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Au Gabon, le bras de fer entre le président sortant Ali Bongo Ondimba et son principal rival à la récente présidentielle, Jean Ping, devrait trouver son épilogue devant la Cour constitutionnelle qui a 15 jours depuis hier jeudi pour trancher le contentieux électoral. Les détails avec Orzuma Compaoré.
L'opposant gabonais Jean Ping a finalement déposé jeudi un recours contre la réélection du président Ali Bongo, répondant ainsi à la suggestion de la communauté internationale pour gagner du temps et calmer les esprits dans la violente crise post-électorale. Le score obtenu dans la province rurale du Haut-Ogooué, frontalière du Congo, fief ethnique des Bongo, est au centre de la polémique. Pour l'avocat de l'opposition, la compilation de 174 procès-verbaux dont son camp dispose pour le Haut-Ogooué montre dans tous les cas qu'Ali Bongo ne peut pas gagner cette élection. Le camp d'Ali Bongo a renoncé à saisir la cour contre M. Ping, bien qu'il accuse en retour d'avoir fraudé sur l'ensemble du territoire. Selon le camp Bongo, ce n'est pas au vainqueur d'initier un recours. Mais l'opposition reste ferme sur sa principale revendication, le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote pour le Haut-Ogooué, en présence de représentants de la majorité de l'opposition à parité égale, mais aussi d'experts internationaux.
Dialogue politique en RDC, poursuite des discussions sur les questions électorales, démarrer avec les élections locales ou bien faire la priorité à la présidentielle. Les points de vue des participants sont diamétralement opposés sur ce sujet. Les précisions de Walter Nkouy de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La majorité présidentielle porte son choix sur la première proposition, celle qui veut qu'on débute avec les locales, ce qui va obligatoirement repousser la présidentielle au-delà de 2017 si l'on utilise les nouveaux fichiers électoraux. Léonard Chez Okitundu.
Nous estimons que c'est mieux de commencer par les élections locales. Toutes les élections se valent. Il n'y a pas lieu de privilégier l'élection présidentielle par rapport aux élections locales.
Côté opposition, on remarque encore un flottement dans les positions des différents acteurs, ce qui pourrait être un déséquilibre lors de l'adoption à la Assemblée plénière. Jean-Lucien Boussa rassure tout de même.
Pour l'opposition politique, l'élection prioritaire qui doit être proposée la première, ça doit être l'élection présidentielle. C'est l'hypothèse optimale. Au-delà de cette hypothèse, je ne vois pas ce que nous faisons ici.
Le rassemblement qui refuse de participer à ces assises devient de plus en plus dur dans ses prises de position. S'agissant de ces pourparlers, Franck Diongo parle d'un complot.
Ces complots visent en fait la négociation du virage du 20 décembre. Où M. Kabila bénéficiera de continuer d'être président de la République au-delà du 20 décembre. Le 20 décembre, il n'y aura pas de vacances, il n'y aura pas d'intérim, il y aura l'alternance.
Kinshasa, Walter Nkouy de Top Congo pour VOA Afrique.
Soudan du Sud, l'ONU accuse le pouvoir à Djouba d'être responsable des violents combats du mois de juillet. D'après un rapport des Nations Unies, les combats ont été menés par le haut commandement de l'armée avec l'accord du président Salva Kiir. Les experts de l'ONU estiment également que les exactions sans précédent qui ont accompagné ces combats, notamment les violences et les viols collectifs d'employés d'organisations internationales, n'étaient pas seulement le fait de soldats incontrôlés. L'armée régulière sud-soudanaise a affronté du 8 au 11 juillet à Djouba les ex-rebelles de Riech Machar dans des combats à l'arme lourde qui ont fait au moins 300 morts et poussé 60 000 personnes à fuir le pays. On passe maintenant à l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, s'est dit favorable à un report des élections municipales du 20 novembre en raison de l'instabilité dans le centre et le nord du pays. C'était à l'issue d'une rencontre avec le président Ibrahim Boubacar Keïta au palais présidentiel hier soir. Pour le leader de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, les dates des prochains scrutins devraient être revues et la loi électorale actuelle n'est pas satisfaisante pour l'opposition. M. Cissé a qualifié l'entretien avec le chef de l'État de détendu et indiqué que l'opposition avait aussi réclamé au président Keïta des journées nationales de concertation pour débattre de tous les problèmes du pays. Et puis au Bénin, au moins 2 morts et 61 blessés dans la commune de Tori-Avamé, à 40 km de Cotonou, suite à une explosion dans une décharge d'enfouissement de produits avariés hier soir. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la police béninoise, selon Richard Akodande, chef du service accident du commissariat central de Cotonou. Une entreprise de la place était venue y déverser de la farine de blé avariée et l'a aspergée d'essence avant de mettre le feu. La population de la zone a afflué dans les secteurs de la décharge qui ne brûlait pas pour essayer de s'approvisionner en farine quand une explosion s'est produite, a déclaré un témoin de la scène. Des policiers étaient sur les lieux pour empêcher les populations de se ruer sur ces produits, mais ils ont été débordés très vite, a souligné Richard Akodande, le chef des services accidents au commissariat de Cotonou.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Guinée-Bissau, la CEDEAO s'implique dans le règlement de la crise politique dans le pays. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest propose au président bissau-guinéen Manuel Valls la formation d'un gouvernement de consensus. On écoute Marcel Dessouza, président de la commission de la CEDEAO.
Nous sommes tombés sur 6 points pour sortir la Guinée-Bissau dans cette situation de blocage politique et de crise économique. Les 6 points sont les suivants. Premier point, organiser autour d'une table ronde l'ensemble des partis, qu'il s'agisse du PAIGC, du PRS et des 15 députés, pour qu'on puisse arrêter une plateforme. Et cette plateforme-là, nous allons la mettre en œuvre. Deuxième point, il s'agit de mettre en place un gouvernement consensus, surtout inclusif, pour que nous allions vers une unité nationale. Troisième point, il s'agit pendant les 2 ans que nous allons mettre le gouvernement inclusif d'engager les réformes de la Constitution, d'engager les réformes des lois électorales, la réforme pour renforcer la justice et la réforme pour l'administration territoriale.
C'était Marcel Dessouza, président de la commission de la CEDEAO. On passe à l'actualité hors d'Afrique maintenant. Le chef de la diplomatie européenne s'est rendu vendredi en Turquie après avoir été vivement critiqué par Ankara pour avoir tardé à réagir après le coup d'État avorté dans le pays. Et ce, dans un effort pour apaiser les tensions et intensifier le dialogue avec le gouvernement turc. Les précisions de Tatiana Mosso.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a critiqué à plusieurs reprises ce qu'il perçoit comme un manque de soutien de l'Occident à son gouvernement après le putsch avorté, dont il attribue la responsabilité à l'ex-prédicateur Fethullah Gulen qui vit en exil aux États-Unis. Cette visite était la première d'un responsable de l'Union européenne de ce rang depuis la tentative du coup d'État du 15 juillet. Federica Moreghini a assuré que les deux parties avaient eu des discussions profondes pour que l'État de droit soit respecté après de vives critiques adressées par des responsables européens à Ankara à la suite de dizaines de milliers d'arrestations survenues au lendemain de la tentative du coup d'État. Quant aux discussions sur l'adhésion de la Turquie à l'Europe, la chef de la diplomatie européenne a reconnu qu'il y avait eu de part et d'autre plusieurs irritations, ajoutant qu'Ankara devait faire des progrès. La Turquie a été et est et sera toujours un candidat. Pour le ministre turc des Affaires étrangères, la Turquie est un pays européen, une démocratie européenne. L'avenir de l'Europe est le nôtre, a-t-il ajouté.
Conflit en Syrie, Russie et Américains se sont retrouvés aujourd'hui à Genève dans l'espoir de surmonter les différends jusque-là inconciliables sur le conflit dans le pays, afin de parvenir à au moins un cessez-le-feu au moment où le régime du président Bachar Assad progresse face à la rébellion. Les chefs de diplomatie américaine et russe John Kerry et Sergei Lavrov ont entamé ce vendredi de nouvelles discussions après plusieurs échecs ces derniers mois. Plus de détails avec Bagassi Koura.
Leur discussion fait suite à de récentes conversations et sera centrée sur la réduction de la violence, l'élargissement de l'aide humanitaire pour le peuple syrien et les avancées vers une solution politique pour mettre fin à la guerre civile en Syrie, a expliqué le porte-parole de la diplomatie américaine John Kirby. Le secrétaire d'État américain à la défense, Ashton Carter, a déclaré hier qu'il y avait toujours un long chemin à faire avant la conclusion d'un accord. Les deux parties estiment cependant qu'un accord devrait inclure un cessez-le-feu durable, un accès humanitaire aux zones de conflit et une reprise des négociations de paix qui sont au point mort. Barack Obama avait eu des entretiens sur la Syrie avec son homologue russe Vladimir Poutine en marge du récent sommet du G20 en Chine, mais aucune percée n'avait été enregistrée.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.